Merci Seigneur pour sa grâce et sa bonté envers nous. Je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, où nous aurons notre lecture du jour. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Deux Rois, chapitre 5. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la plaie, sur la place, et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée, qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Un texte qui est connu de croyants, des croyants, bien souvent, utilisé souvent, tant pour l'annonce de l'évangile aux incroyants que pour l'édification des croyants ou pour des messages qui sont destinés à encourager la foi de la guérison divine. Mais ce texte est en même temps remarquable, il est frappant, il est étonnant, je dirais même qu'il est dérangeant de plusieurs façons. Hein. Déjà, vous avez le contraste entre la longueur de la narration de notre texte, hein, qui couvre quand même tout ce grand chapitre, à lui tout seul, et la brièveté des autres récits de miracles qu'on peut voir juste avant. Ben, vous avez les miracles qui ont été opérés pendant la famine. Hein, on voit que chaque fois, il n'y a pas grand-chose qui est dit, c'est vite résumé. Et juste après, comment Élisée a fait surnager le fer de hache, ça aussi, c'est dit en peu de temps. Voilà, déjà une différence. Et puis ensuite, voilà, pourquoi guérir le général en chef de l'armée ennemie ? Et pourquoi lui demander de se plonger cette fois dans le Jourdain ? Pourquoi accepter ce compromis que demande Naaman quand il demande la permission de se présenter dans le temple, de se prosterner même dans le temple du dieu païen, après avoir manifesté son désir d'adorer l'Éternel dans les versets 18 et 19, alors que pour Israël, l'idolâtrie c'était quand même quelque chose qui était strictement prohibé, on le voit. Et puis, pourquoi aussi punir si sévèrement Géasi d'une offense qui paraît quand même mineure, hein, ça paraît peu de choses. Naaman, le général donc, qui a ravagé la terre promise, le voilà qui est délivré de sa lèpre, alors que le plus proche serviteur d'Élisée, avec toute sa descendance, est puni de cette manière. Donc, on pourrait dire presque que c'est le monde à l'envers. Hein. On pourrait donner ça comme titre à notre message aujourd'hui, parce que non seulement Naaman n'est pas puni pour, je dirais, ses méfaits passés, donc la guerre contre Israël, mais il reçoit la guérison de sa lèpre gratuitement en plus, et il obtient d'avance l'acquittement de ce compromis futur, de ces compromissions qui, pour tout Israélite, sont inacceptables, hein, on le voit. Et de son côté, Géasi, qui est peu récompensé pour ses services passés, parce que son salaire lui semblait modeste, lui est châtié avec une grande sévérité pour avoir convoité un profit légitime à ses yeux. Hein, donc, et en plus, ce gain ne privait personne, puisque Élisée avait refusé le don et que Naaman était tout heureux d'offrir de l'argent et des vêtements. Voilà. Alors, dans la suite de notre prédication, nous arrêterons successivement sur quatre personnages principaux que vous avez là. D'une part, il y a Élisée, bien sûr, puis il y a aussi Naaman, et puis nous avons Géasi encore, et puis nous avons également cette jeune servante, cette jeune esclave juive, hein, puis avec une petite parenthèse que nous pourrons faire pour le roi d'Israël. Donc, Élisée, le prophète, en premier. Personnage important, principal dans ce récit, et qui se trouve dans une situation délicate. Quand même se le dire, hein. C'est-à-dire secourir un étranger, mais surtout un ennemi redouté de toute la nation, voilà qui pouvait susciter l'interrogation et même le soupçon de la part d'un certain nombre de ses concitoyens. C'était déjà délicat, hein. Pourquoi est-ce qu'il a guéri ce riche général d'un peuple ennemi ? N'y avait-il pas assez de lépreux à guérir en Israël ? D'ailleurs, souvenez-vous que Jésus, plus tard, dira qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais qu'aucun n'était guéri du temps d'Élisée, sauf Naaman le Syrien. Hein, Jésus va relever cela en son temps, quand il viendra sur la terre. Hein. Donc, est-ce qu'Élisée serait un traître à la solde de l'ennemi ? Hein, quelle surprise, quelle déception, quelles accusations dans le camp israélite, au moins dans un premier temps. Alors, on sait quand même que le roi d'Israël était au courant de la visite de Naaman à Élisée, on l'a vu au verset 8, et puis il devait même souhaiter, sans trop y croire, une guérison miraculeuse pour préserver la paix avec la Syrie. Lui, c'était ça son problème. Et donc nous voyons bien qu'il s'agissait d'une situation compliquées, des choses difficiles pour Élisée, et la moindre erreur de sa part pouvait aussi avoir des conséquences difficiles. Alors, c'est là que nous voyons, qu'Élisée démontre qu'il est un véritable serviteur de Dieu aussi par le fait qu'il ne se laisse pas acheter et qu'il fait tout pour. Hein. Dès la première visite, nous voyons qu'Élisée va tenir le Syrien à distance. Malgré le long voyage du général, le prophète lui répond par un simple messager, on pourrait dire un simple domestique, on pourrait parler comme ça, et donc apparemment sans égard pour son noble visiteur, et même pour les lois de l'hospitalité, Élisée le renvoie loin de chez lui, on le voit. Et Naaman doit aller jusqu'au Jourdain, situé à plus d'une journée de marche de la capitale, et si Élisée n'avait pas voulu revoir Naaman, eh bien il n'aurait pas agi autrement. Mais le point crucial, c'est celui-là. Élisée décourage Naaman de revenir, car il ne veut rien obtenir pour cette intervention miraculeuse. Et le Jourdain est choisi comme lieu du miracle, aussi parce qu'il se trouve sur le chemin du retour de Naaman à plus de 50 km de Samarie. Ça veut dire qu'une fois guéri, le Syrien n'aura qu'à poursuivre sa route pour entrer chez lui. Donc, et cette manière expéditive de traiter Naaman, ben ça doit produire chez lui un ressentiment, une aigreur, qui doivent le décourager de revenir vers Élisée, à moins bien sûr qu'il y ait quelque chose de plus profond en lui, hein, donc ce qui va être le cas. Et quand malgré tout, Naaman revient reconnaissant vers lui, nous voyons que le prophète refuse tout cadeau. Hein, verset 16, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Nous voyons que la formule est suffisamment solennelle pour ne laisser aucun doute sur ses intentions réelles. Parce que vous savez, vous avez eu le cas de Balaam. Hein, lui, par contre, lorsque Balak envoyait des émissaires avec des richesses, Balaam il disait non, mais ça voulait dire oui, hein, en réalité. Hein. Et puis, tandis que là, ce n'est pas le cas. Là, il n'y a pas de problème. Hein, les choses sont extrêmement claires. Nous voyons qu'Élisée n'exploite même pas la guérison du général pour améliorer les relations avec la Syrie, peut-être pour obtenir la libération de quelques prisonniers de guerre. Rien de tout ça. Hein. Et quand Naaman parle d'adorer l'Éternel en Syrie, comme il n'y a aucun témoignage public qui lui est imposé, hein, versets 17 à 19, au contraire, Élisée accepte que ce témoignage se fasse discrètement. Donc, cette terre qu'il emporte sera le siège d'une adoration réelle, mais privée, particulière, au moins dans un premier temps. Et ainsi voyons-nous l'exemple du désintéressement qui est nécessaire pour un service béni de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein, donc, Dieu fait de grands miracles au travers de ceux même qui ont un esprit désintéressé, qui font toujours passer les intérêts de Jésus-Christ avant leurs propres intérêts. Et si Dieu a pu agir ainsi au travers d'Élisée dans cette circonstance difficile et au travers de lui seul, c'est parce qu'Élisée se trouvait dans cet état d'esprit, de cœur et de vie, d'entière consécration et de total désintéressement. Amen. Voilà. Et je vais vous lire un petit article qui m'est paru sous les yeux il n'y a pas longtemps. Ça avait pour titre « La bonne affaire d'un honnête homme ». Cette information-là n'a pas fait la une des journaux, mais simplement l'objet d'une brève, entre guillemets, dans un bulletin associatif. Et pourtant, le geste qu'elle rapporte est si étonnant, si rare aujourd'hui, qu'il aurait mérité de figurer au moins dans une rubrique du genre « Tout peut arriver », ou mieux, être mis en exergue dans la chronique des faits divers à haute valeur pédagogique. Que l'on en juge. L'événement authentique s'est passé à Colmar, en Alsace, dans le magasin des Ateliers Espoir. Point de vente, une grande association protestante d'entraide et de solidarité avec les plus pauvres. Ce jour-là, un homme, collectionneur de gravures anciennes, y a fait son choix parmi les quelques objets de ce genre qui lui ont été présentés par Bernard, le responsable bénévole. Il a notamment sélectionné une image sur plaque métallique, relativement dégradée, mais cependant affichée au prix de 8 euros, compte tenu de son aspect fort ancien. Mais cet amateur éclairé sait qu'il peut faire là une incroyable bonne affaire. En connaisseur, il a reconnu un daguerréotype, technique primitive de photographie inventée en 1838, dont il estime la valeur réelle à 3 000 euros environ. Que va-t-il faire ? c'est l'évidence même, passer à la caisse avec l'air le plus innocent possible, tout en jubilant intérieurement sur la chance qu'il a eue de tomber sur une telle aubaine et sur des gens aussi ignorants de la valeur de cette photographie ancienne. Voir pousser la rouerie jusqu'à faire remarquer que 8 euros c'est cher payé pour une gravure en aussi mauvais état. Eh bien non, notre homme, honnête homme, explique à Bernard la valeur réelle de l'objet et signe un chèque de 3000 euros. Oui, je sais que beaucoup, en lisant cette renversante anecdote, vont crier au fou, lever les yeux au ciel avec une moue de désolation, esquisser un sourire apitoyé sur la bêtise et l'incommensurable naïveté de ce « brave homme » entre guillemets, et même peut-être user à son égard de qualificatifs plus fleuris les uns que les autres. Une telle affaire, ça ne se rate pas. Mais j'ai aussi l'impression que s'il s'agissait de confier à quelqu'un son propre portefeuille, ou la clé de sa maison, ou son carnet de chèques, ou si l'on devait conclure une négociation, ou croire une personne sur parole, ou chacun aimerait avoir affaire à un tel homme. Allez savoir pourquoi. Sans doute parce que c'est avec ses semblables que peut se bâtir une société de confiance et non de défiance. Un monde un peu meilleur. Non, les honnêtes gens ne sont pas naïfs, ni même idéalistes. Ils posent par leurs actes des pierres qui édifient un monde vivable. Se souvenant peut-être aussi de cette parole d'or du Christ. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Ne leur fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Amen. Eh oui, c'est vrai. Alors que Dieu puisse trouver des Élysées au milieu de son peuple aujourd'hui et qu'il puisse ainsi se glorifier. Amen. Et puis arrivons-en à Naaman le Syrien. Et là, Naaman, nous trouvons chez lui un certain nombre de qualités, un certain nombre de valeurs, avant même qu'il rencontre le prophète, hein, puis aussi certains défauts qu'il va surmonter en acceptant de s'humilier et de changer dans sa vie et dans ses façons de voir les choses. Hein, ça, c'est qui est intéressant aussi. Ben déjà, pour commencer, voilà un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur qui est prêt à rendre à chacun ce qu'il lui doit et à payer son dû quand il le faut. Voyons que la quantité de cadeaux qu'il emporte montre qu'il ne se rend pas en Israël en conquérant, mais en homme nécessiteux, prêt à récompenser généreusement son bienfaiteur, l'argent tout seul, qui est cité là. Ça représente 5 fois le montant qu'Akab a payé pour acheter l'emplacement de Samarie, pour construire sa capitale. C'est dans 2 Rois, chapitre 16, verset 24, que les chiffres sont indiqués, et c'est ça qui nous permet de faire la comparaison. Et lorsque Élisée l'envoie au Jourdain pour se purifier, bien Naaman ne profite pas de son éloignement pour rentrer directement chez lui, mais il remercie son sauveur. Souvenez-vous, dans l'évangile de Luc au chapitre 17, Jésus a guéri non pas un lépreux, mais combien ? 10. Hein ? 10 lépreux, rappelez-vous. C'est 10 lépreux, dans le chapitre 17, du verset 11 au verset 18. Et puis, il leur a ordonné d'aller se montrer au souverain sacrificateur. Et puis, en y allant, ils ont été guéris. Il y en a combien qui sont revenus sur les 10 ? 1. Oui, c'est vrai, il y en a 1. Et je dirais, voilà, la reconnaissance de cet homme a été fondamentale pour son salut. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un, vraiment, il y a une belle œuvre qui va pouvoir se faire en lui. Ça, c'est primordial, c'est important. Et plus tard, quand Géasi va lui demander de l'aide, voyez comment Naaman offre immédiatement le double de ce qui est demandé au verset 23. Nous avons besoin d'hommes et de femmes d'honneur. On a besoin partout dans toute la société, spécialement dans l'œuvre de Dieu, hein, qui sont généreux, donc, lorsque la cause du Seigneur est en jeu, qui refusent de se laisser aller à la mesquinerie de petits calculs étriqués pour savoir si on leur a bien donné tout le respect, tous les égards, tous les bénéfices auxquels ils pensent avoir droit. Dans Romains chapitre 12, verset 10, il est marqué « par honneur, usé de prévenance réciproque ». Honorer les autres, honorer les frères et sœurs, ceux que Dieu met avec nous. Des gens qui refusent de s'abaisser à, malheureusement, ces petits ragots, ces petits égoïsmes, toutes ces petites saletés-là, dont le monde se délecte et que le monde affectionne tant. Si nous avons un honneur, alors nous honorerons aussi les autres. Nous attribuerons aussi un honneur aux autres. Et il est même parlé d'un double honneur pour ceux qui ont la responsabilité de la parole de Dieu. Et c'est aussi de cette manière que le Seigneur nous honorera. Amen. Et puis une deuxième chose chez cet homme, c'est un homme qui écoute. C'est un homme qui a l'esprit ouvert. C'est intéressant. Lorsque la jeune servante lui a témoigné, lui a parlé de ce que Dieu pouvait faire par Élisée, il n'a pas fait n'importe quoi. Non, il a écouté. Il a écouté, bon, j'imagine qu'il a posé des questions. Hein, il a dû aussi considérer la vie de cette jeune fille, voir si ce n'était pas une affabulatrice, si ce n'était pas une déséquilibrée. Hein, non, il a vu que ce n'était pas le cas. Et puis, il a été attentif à son discours, hein, donc, et il a été attentif à ses arguments. C'était très différent de la religion dont lui avait l'habitude, hein, ce qu'elle lui disait là. Et certainement a-t-il dû avoir des objections, mais quand même, il avait l'esprit suffisamment ouvert pour se dire « mais je ne sais pas tout ». Hein. La vie, c'est un apprentissage, je n'ai pas encore tout compris, je n'ai pas encore tout vu. Hein. Il y a encore des choses qu'il faut que je comprenne, j'ai encore des choses à apprendre. Tant qu'on est dans cette disposition-là, il y a de l'espoir. Vous savez, ceux qui ont tout vu, tout connu, ben, ils sont sclérosés dans leur tête, hein. Ça c'est clair. Hein. Donc, et j'imagine que la maladie dont il était atteint a dû contribuer à le faire réfléchir. Et vous savez, après tout, même aujourd'hui, vous avez bien des malades qui peuvent être gravement atteints, et ce n'est pas forcément pour ça qu'ils vont se remettre en question dans leur façon de voir les choses. En tout cas, plus tard, quand il repart de chez Élisée, alors là, voilà, repart de chez Élisée, rappelez-vous, rempli de fureur d'avoir été traité si impoliment par le prophète, il accepte néanmoins d'écouter les remarques de ses serviteurs. J'imagine que ceux-ci ont dû agir diplomatiquement, ils connaissaient certainement leur patron, ils ont dû attendre, ils vont laisser passer l'orage, hein. Et puis après, doucement, ils sont arrivés. Mon père, si le prophète avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il les a écoutés. Heureusement, peut-être qu'il y avait 50 km de distance à faire pour que ça puisse s'apaiser, pour qu'il puisse réfléchir. Ça ne s'est pas forcément fait tout seul. Mais malgré tout, il a accepté de changer. Malgré tout, il a accepté d'évoluer. Ce n'est pas évident de réaliser tout ce que ça représentait pour un homme comme lui, hein, dans la position où il était. Et donc, mais Dieu l'a vu. Et c'est parce qu'il a accepté de changer comme ça, c'est aussi que Dieu l'a béni. Parce qu'il a ouvert, il a un esprit ouvert. Et vous savez, l'expérience te montre la difficulté que même des croyants peuvent avoir à écouter et à garder l'esprit ouvert, hein, pour que la douce voix du Saint-Esprit puisse parler à leur cœur, pour qu'elles réussissent à franchir, je dirais, le bardage de certitudes et d'habitudes qu'ils se sont forgées, pour qu'enfin ils admettent que malgré leur bon droit, peut-être, il faut quand même qu'ils changent de comportement et pour qu'ils réalisent que Dieu peut leur parler et que Dieu veut leur parler souvent, comme ici, par des plus petits ou considérés comme plus petits qu'eux. Voyez-vous, hein, Naaman, qui c'est qui lui a parlé? Une petite esclave. Et puis ses serviteurs. Dieu a utilisé ces deux moyens-là pour lui parler à lui, le grand Naaman. Hein, voilà, c'est intéressant. Hein, donc voilà, malgré tout, un homme qui écoute et qui garde l'esprit ouvert, alors tout est possible. Alors il y a vraiment de l'espoir avec quelqu'un qui est comme ça. Et puis si j'avance encore, je vois aussi un homme reconnaissant. Et ça aussi, nous l'avons déjà un petit peu touché, c'est une grande preuve de conversion. Parce que quand quelqu'un est reconnaissant, et qu'il le reste, eh bien, il va être content. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est content, c'est quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui est aimant envers celui envers lequel il manifeste cette gratitude et cette reconnaissance. Voyez comme il se hâte de revenir du Jourdain vers la maison d'Élisée. Voyez comme il veut vraiment honorer, il veut choyer le prophète même, s'il pouvait, il le ferait. Enfin, l'autre dit, c'est pas faire, mais... Donc, voyez comme il ne se vexe pas lorsque Élisée refuse. Voyez comme au contraire, ça le pousse à se rapprocher de Dieu. Voyez comme il cherche l'avis de l'homme de Dieu dans cette situation. Voyez comme il est prêt à faire tout ce qu'Élisée va lui dire. Et nous voyons un engagement total qui résulte de cette reconnaissance réelle envers Dieu. Qu'en est-il de ton propre cœur, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? L'exemple de Naaman trouve-t-il des correspondances, point par point, dans ta propre vie? Voilà le grand point qu'il nous faut considérer chacun. Amen. Et tout ceci nous mène au point suivant, c'est que voici un homme qui comprend les choses de manière spirituelle. Il a compris que le prophète, ce n'est pas une espèce de marabout, une espèce de thaumaturge, une espèce de magicien ou de sorcier, que sais-je. Il a compris que le prophète, c'est un poteau indicateur qui lui indique, non pas moi je suis qu'un homme, Dieu. Que c'est un intermédiaire, non pas pour indispensable, mais qui lui indique la direction de Dieu. Il a compris cela. Et donc, il veut aller plus loin et il veut adorer le Seigneur. Il veut adorer l'Éternel. Il comprend aussi l'utilisation des symboles. Il se dit, mais si Dieu a voulu que j'aille me plonger 7 fois dans le Jourdain, l'eau du Jourdain, c'est l'eau du Jourdain. mais c'est un symbole. Hein. C'est un symbole de la vie de Dieu. C'est un symbole de la vie qui coule, la vie puissante de Dieu. Donc si je prends de cette terre, c'est un symbole de la terre promise. C'est un symbole du royaume de Dieu. Ce n'est pas la terre qui sera quelque chose. Mais le symbole a une importance, mes amis. Et même aujourd'hui, le symbole a une importance. Nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine en ce moment. Alors nous, on a vu la situation. Mais malgré tout, nous sommes attachés à la Sainte Seine. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé par chanter ce chant qui nous parle de la croix de Jésus, de l'œuvre de Jésus tout au début de notre culte, par exemple. Et puis vous avez d'autres symboles, hein. Vous avez le symbole du baptême, hein. Ça aussi c'est un symbole, mais qui a toute sa force et toute son importance. Hein. Vous avez le symbole de l'imposition des mains, la prière pour les malades. Ce sont des symboles, il n'y a pas de geste magique, il n'y a rien derrière tout ça. Mais vous avez le symbole des signes extérieurs d'obéissance. Et tous ces symboles ont leur sens, tous ces symboles ont leur force. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière vous avez des convictions, parce que derrière vous avez des vérités, parce que derrière vous avez des proclamations divines importantes. Amen. Et puis, nous voyons aussi que cet homme se laisse instruire. On le voit. Il veut sincèrement servir l'Éternel, mais il ne sait pas exactement comment faire, jusqu'où aller. Et quand il pose la question à Élisée, il se dit « je pourrais faire comme ça », mais il pose la question, il prend le risque éventuellement d'un refus, mais si l'Éternel lui demande de changer, de faire autrement, il est prêt à le faire. Et cependant, vous voyez, cette réponse qui paraît surprenante de la part du prophète, « va en paix, va en paix, va en paix ». Élisée a confiance, il voit la disposition du gars. Vous savez, vous avez des gens, vous voyez leur disposition. Et puis, quand vous voyez leur disposition, vous savez que ce n'est pas encore parfait. Vous savez qu'il y a encore bien des choses à apprendre. Hein. Mais le principal est là. Le principal, c'est cette adoration, ce désir, cet esprit dans lequel les choses sont faites. Hein. Jésus lui-même va parler plus tard, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, rappelez-vous, dans le discours avec la Samaritaine. Hein. Jean, chapitre 4. Et là, rappelez-vous ce qu'il dit. Donc, chapitre 4, verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen, alléluia. » Et voyez-vous, cet homme, eh bien cet homme, il était dans cette disposition. Et le prophète a discerné cela. Il a discerné un de ses adorateurs en esprit et en vérité que le Père demande. Et il sait que pour l'avenir, l'Esprit de Dieu va conduire les choses. L'Esprit de Dieu va conduire toutes choses. Amen. Et puis je remarque aussi, je considère aussi, pour conclure sur le point de Naaman, voici un homme de foi, de fidélité et d'engagement. Donc, nous l'avons dit, il est parti sur un témoignage. Parti sur le témoignage de la jeune fille. Il a eu confiance. Hein, donc, voilà, sur un témoignage. Un témoignage, c'est important, vous savez. Quand quelqu'un vous parle et qu'il vous dit que Dieu a fait une œuvre dans sa vie, vous avez deux possibilités, trois, je dirais. Hein. Soit c'est un menteur, il vous raconte des histoires, soit c'est un fou, il est à côté de ses pompes, ou alors il dit la vérité. Vous n'avez pas d'autre solution. Hein. Donc, après, réfléchissez, parce qu'un témoignage, c'est pas n'importe quoi. Un témoignage, c'est quelque chose d'important. En justice, pour rendre des jugements au tribunal, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent que des témoignages. Alors, on les vérifie, bien sûr. Hein, mais sur de la foi de témoignage, vous avez des jugements importants qui sont rendus au tribunal. Hein. Donc, voilà. Parce que c'est un moyen, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous dit que le Seigneur a fait une œuvre dans sa vie et puis qu'il vous donne des témoignages de ce que Dieu a accompli, eh bien, c'est quelque chose de très important. Cet homme, il est parti sur le témoignage de la jeune fille. Et il ne s'est pas laissé décourager par les paroles d'incrédulité du roi d'Israël après. Nous voyons qu'il a accepté finalement d'obéir à la parole du prophète, même si sa mise à l'épreuve, ben, ça a été quelque chose d'humiliant pour lui. Et donc, il a accepté de s'humilier. Hein. Il a découvert la grandeur de Dieu. Ça l'a poussé à revenir à son serviteur déjà, et puis à vouloir lui aussi devenir un serviteur de Dieu. Hein. Vouloir lui aussi servir le Seigneur. Et il prend des engagements pour l'avenir. sachant que ces circonstances de vie ne sont pas faciles, puis qu'elles ne seront pas forcément facilitées, mais parce qu'il veut adorer, parce qu'il veut honorer, parce qu'il veut servir l'Éternel de tout son cœur, là où Dieu le placera et comme Dieu le voudra. Amen. Amen. Voilà, un homme béni, et on peut comprendre maintenant pourquoi Dieu n'a guéri aucun lépreux en Israël et pourquoi il a guéri Naaman. Ce n'est pas parce qu'il était général de l'armée du roi de Syrie, ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de sa disposition intérieure. Et puis j'avance maintenant et voici Géasi. Alors Géasi, malheureusement, c'est à l'opposé de Naaman. Hein. Parce que maintenant, face à face, nous avons d'un côté un juif, de l'autre un syrien, d'un côté un subalterne, de l'autre côté un général, d'un côté un homme qui est instruit dans les choses de Dieu, et de l'autre côté un païen qui ne connaît pas la révélation du Seigneur, au départ au moins. D'un côté, vous avez un pauvre qui est cupide, et de l'autre, un riche qui est généreux. Hein, d'un côté, voilà, vous avez Géasi qui va reculer de plus en plus, alors que Naaman va aller de progrès en progrès. Il est guéri d'abord, puis il découvre la foi et il s'engage. Et il faut examiner la façon dont Géasi va déraper davantage à chaque pas, si j'ose ainsi parler ainsi. Déjà, vous voyez qu'il est rempli, aveuglé par la xénophobie et par la rancune. La xénophobie, c'est la haine de l'étranger. Hein, le refus de l'étranger. Il ne supporte pas les Syriens à cause de la guerre, des souffrances qu'ils ont infligées à son peuple. Hein, la guerre entre Israël et la Syrie, ça n'est pas d'aujourd'hui, ça a des siècles d'existence, malheureusement. Hein. Et nous avons un autre exemple frappant d'une telle attitude, c'est Jonas, rappelez-vous. Le prophète Jonas, lui aussi, lui supportait pas les Ninivites. Il supportait pas les Assyriens, parce que les Assyriens avaient fait tellement de mal à son peuple. Alors il ne voulait pas aller annoncer la bonne nouvelle aux Ninivites. Il ne voulait pas y aller. C'est pour ça qu'il est parti dans l'autre sens. Parce que c'est parce qu'il avait peur, c'est parce qu'il ne voulait pas y aller. Hein, donc il voulait qu'ils soient atteints par le jugement. Il voulait qu'ils soient frappés, eux. Il était rempli de rancune contre eux. Hein, donc je dirais que même si humainement, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer, eh bien, il nous faut prendre garde à ne pas garder, nous, dans notre cœur, de rancune ou de ressentiment à l'égard de quiconque, hein, surtout à l'égard d'un frère ou une sœur dans la foi ou d'un proche, parce que non seulement ça va être un frein et un obstacle pour que Dieu nous bénisse, un obstacle pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu, mais nous nous engageons et nous nous enfonçons automatiquement dans un chemin d'erreur et d'éloignement de plus en plus grand du Seigneur, parce que lui nous invite à aimer nos ennemis et à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de venir à lui, parce que souvent on n'y arrive pas par nos propres forces. Hein? Mais en tout cas, voilà. Ensuite, le deuxième point concernant Géasi, voyez comme il est aveuglé par la convoitise et par le matérialisme. Il ne comprend pas, lui, les buts spirituels élevés du prophète en agissant ainsi, et puis il se dit que ce serait vraiment stupide de laisser passer une occasion unique comme celle-là. Et je dirais que c'est quand même une chose étonnante, parce que Géasi, c'est quelqu'un qui avait eu des aspirations spirituelles, vous savez. Il s'était engagé au service d'Élysée, volontairement il l'avait fait. Hein, donc, un homme qui avait fait des efforts, des sacrifices dans ce service pour Dieu. Et voilà que ce péché se trouve en lui. Quelle chose étonnante, quelle chose surprenante. Et ce qui me montre combien on peut avoir été pendant un temps, peut-être, je ne sais pas, consacré, désintéressé, généreux, et puis redevenir convoiteur, et puis tomber dans l'amour de l'argent, et se laisser aller à la recherche de ses aises, à la recherche de ses avantages, et ça se fait progressivement, oui c'est vrai, et puis c'est quelque chose, je crois, qui doit nous faire craindre et veiller, parce qu'il s'agit d'un grand piège pour beaucoup de croyants, surtout dans le monde occidental dans lequel nous sommes. Hein. C'est quand même quelque chose mérite vraiment d'être rappelé. Puis la troisième chose qu'on voit, c'est que malgré tout, il manque de crainte de Dieu. Ça aussi, c'est un problème. Hein. Pourtant, il sait. Il sait très bien qu'en diverses occasions, le prophète a montré une connaissance des situations surnaturelles. Hein. Il sait que le prophète a une vision des choses alors qu'il n'est pas là, et puis ou une connaissance de choses qui se disent même au loin. Hein, à un moment, le prophète il était capable de dire ce qui se passait dans la chambre, ce qui se disait dans la chambre à coucher du roi de Syrie. Hein. Donc, voilà, il sait ces choses-là, il les connaît. Mais lui-même, aveuglé par sa convoitise, justement, eh bien, ne réalise même plus que Dieu sait ça, que Dieu le voit, que Dieu est grand et puissant, et que lui-même est d'autant plus en péril, justement, qu'il a été aux premières loges pour voir ce que Dieu était capable de faire et ce que Dieu était capable d'accomplir au travers du prophète. Alors, vous savez, l'Écriture nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est vrai. Ça veut dire que le manque de crainte de l'Éternel, ben, c'est une preuve de grande folie aussi. Donc, c'est ce qui va l'amener, hélas, plus loin encore dans cette décadence spirituelle. Parce qu'il va en arriver maintenant à des actes irrémédiables, qui pourtant paraissent peu de choses. Comme ça, si vous les prenez séparément, vous voyez que toc, 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 ça va se suivre maintenant les choses. Déjà, il a commencé par critiquer silencieusement le prophète dans son cœur. On voit dans le verset 20, alors il a dit, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. Là, il dit, non, il n'aurait pas dû le... Ouais, il commence par le critiquer. Il met Dieu dans la sauce, l'Éternel est vivant. Il en parle là-dedans. Et puis, il va tromper Naaman en lui mentant. Déjà, premièrement, critique. Voilà. Puis ensuite, premier mensonge. Et puis, avec ce mensonge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi ternir l'image du prophète, d'une part, mais encore plus grave que l'image du prophète. Il va ternir l'image de la gratuité du message de salut et de guérison qui est le sien. Et puis après, il va revenir vers Élisée, et puis il va lui mentir en face aussi, avec aplomb, on le voit. Alors, il ne se rend pas compte, je ne sais pas exactement à quel moment, mais en tout cas, voilà, à un moment là, dans tout cet engrenage de choses, il a franchi la ligne rouge. Il a franchi une ligne rouge du jugement qui est tombée sur lui, et puis qui va tomber d'ailleurs aussi sur tous ceux qui sont spirituellement portés à réagir de la même manière. Et ça, c'est aussi un problème. Et là, nous voici avec un homme, en cinquième finalement, un homme qui a l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Voilà. Il prétend servir Dieu, prétend servir le prophète, mais en fait, dans son cœur, il sert Dieu et Mammon. Il sert Dieu et l'argent. Il se rattache à tous ceux qui, au cours des siècles, ont pu ainsi freiner ou arrêter l'œuvre de Dieu. Que ce soit Judas, Judas aussi, pour 30 pièces d'argent, donc on le voit, donc au temps de Jésus, ou que ce soit Ananias et Saphira, dans le livre des Actes des Apôtres, ou que ce soit un certain nombre de riches du temps de Néhémie, le prophète, Néhémie, le serviteur de Dieu, ou que ce soit ces pharisiens qui faisaient des offrandes, mais sans que cela coûte de sacrifice, vous apercevez que tous ces gens-là, à un titre ou à un autre, ils avaient une place dans l'œuvre de Dieu, quelque part. Ils avaient un service, ils avaient quelque chose, mais tous ont fait des choses qui, finalement, ont été pour eux moyens de perdition à cause de cela. Qu'est-ce qui tue la mer morte? Vous savez ce qui tue la mer morte? C'est son avarice. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, la mer morte est morte d'avarice. Depuis des siècles, elle reçoit, elle ne donne rien en retour. Effectivement, le Jourdain coule dans la mer morte, vous n'avez rien qui sort de la mer morte. Elle ne redonne pas plus loin, et elle est alimentée par une rivière, mais elle n'en alimente aucune. Ainsi, ceux qui reçoivent toujours, qui veulent qu'on leur offre continuellement, mais qui ne donnent rien en retour, cela dépérissent aussi spirituellement. C'est l'histoire de cet étudiant qui un jour s'est plaint à un de ses professeurs de ce qu'il ne faisait pas de progrès dans ses études. Et puis il a demandé, est-ce que vous pourriez me conseiller un tuteur? Le professeur l'a regardé, et puis il le connaissait, il avait de la sagesse, il a dit, mon ami, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un tuteur. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un étudiant, c'est d'être vous-même le tuteur de quelqu'un, qu'il lui a dit. Dans son cas, c'est ce qu'il fallait. L'Épître aux Hébreux, réprimande aussi ses lecteurs, parce qu'ils n'étaient encore que des bébés qui se nourrissaient de lait spirituel, au lieu d'être de ceux qui vraiment assumaient leurs responsabilités, et puis portaient les charges qu'il faut porter dans l'œuvre de Dieu. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était réellement, réellement un problème. Dans l'évangile de Luc au chapitre 6, au verset 30, nous voyons bien ce que le Seigneur dit, ce dont il attend, ce qu'il attend de nous. Il est marqué là, « Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, enfin, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il attend. Et donc, ayant ainsi convoité les biens de Naaman, eh bien, Géasi s'est trouvé quelque part pire qu'un païen et il a hérité de la lèpre de Naaman. Et puis, heureusement, nous avons quelqu'un de plus réjouissant à considérer avant de conclure. Hein. C'est la jeune fille d'Israël. Et là, quel contraste avec le comportement de Géasi. Déjà, elle n'avait aucune rancune envers les Syriens. Nous le voyons bien. Mais pourtant, elle a plus de raisons d'en avoir dans la position où elle se trouvait, puisqu'elle avait été enlevée. Elle se retrouvait comme esclave. Là, bon, la femme de Naaman la traitait bien, mais quand même. Hein, donc, elle aurait bien plus de raisons d'en vouloir aux Syriens que Géasi n'en avait. Hein. Donc, déjà, une première chose. Hein. Et puis, une autre chose, c'est une foi remarquable. Vous voyez la valeur de sa foi, là où d'autres douteraient de la puissance de Dieu. Nous voyons qu'elle manifeste vraiment une assurance merveilleuse. Et en même temps aussi un attachement au ministère. Elle témoigne de Dieu, elle témoigne de l'instrument de Dieu, du prophète aussi, verset 3, pour accomplir les miracles de l'œuvre du Seigneur. Et voyez combien son amour est profondément désintéressé. Là aussi, quelle différence avec l'égoïsme de Géasi. Et parce qu'elle a cet amour, et puis ses autres qualités décrites plus haut, qu'elle va aussi avoir du discernement spirituel. Toute jeune qu'elle soit, eh bien, elle croit que Dieu ne fait pas seulement du bien aux Israélites, mais que Dieu est capable de faire du bien à tout homme, et même désireux de faire du bien à ceux qui oppriment le peuple d'Israël. Voyez-vous ? Elle était capable d'avoir ce discernement spirituel-là. Hein. Et puis, elle a aussi une foi pratique, une foi qui se souvient. Hein. Donc, malgré sa captivité, elle n'a pas oublié Élisée. Et elle croit que Dieu est puissant pour intervenir dans la situation présente même. Et on peut comprendre maintenant pourquoi aussi Dieu va suivre de manière admirable son témoignage et va honorer sa foi et va accomplir une œuvre extraordinaire, encore plus merveilleuse que celle probablement auquel elle pouvait penser. Amen. Voilà. Alors en conclusion, eh bien, considérons des tendances. Quatre tendances dans l'œuvre de Dieu même. Hein. Choses qui peuvent paraître étonnantes mais qui sont réelles. Déjà, vous avez une première tendance, c'est celle de païens qui deviennent croyants et qui lutte pour s'approcher du Seigneur et saisir la bénédiction. Alléluia. Alors ça, c'est très réjouissant, et c'est quelque chose qui se fait. D'autre part, quelque chose de moins réjouissant, c'est qu'il existe aussi des croyants qui auraient tendance à redevenir païens. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se laisser prendre par la convoitise et par la tiédeur. Et hélas, c'est quelque chose qui existe. Une troisième chose qu'on peut voir, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est qu'il faut être petit et rabaissé pour pouvoir discerner correctement ce qui est bon, ce qui est selon la volonté de Dieu, et pouvoir ainsi donner la leçon au plus grand. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qui ressort de notre affaire. Tandis que, en quatrième, ceux qui ont grandi, ou ceux qui se pensent grands, peut-être même ceux qui le sont, eh bien, ils ont tendance à se reposer sur cela, hein, sur leur grandeur, etc. Et à ce moment-là, eh bien, malheureusement, ils risquent de perdre l'amour des âmes, et ils risquent de perdre la volonté de Dieu pour leur vie. Alors mes amis, vous savez, aujourd'hui encore, on cherche des Naamans. On cherche des gens qui ont cette attitude, qui veulent avoir cette attitude dont je ne reprends pas les détails maintenant. On cherche des fidèles comme cette petite jeune fille. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités extraordinaires pour pouvoir être approuvé de Dieu et pouvoir être béni de Dieu. Alléluia. Hein. On cherche enfin des Élisées aussi pour faire l'œuvre de Dieu dans ces temps difficiles que nous vivons. Les temps étaient difficiles à l'époque. Les temps sont difficiles aujourd'hui. Ça n'a rien d'original. Hein. C'est quelque chose comme ça. C'est la réalité de la situation. Mais rien n'empêche Dieu d'agir. Rien n'empêche Dieu de se servir d'un petit ou d'un grand pour faire sa volonté. Le principal, c'est la disposition de notre cœur. Et le principal, c'est véritablement de se tourner vers lui, de se confier en lui de tout notre cœur. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, parce que tu es toujours le même. Et aujourd'hui encore, eh bien, tu es celui qui veut agir et qui veut visiter l'un, qui veut visiter l'autre par ton amour et par ta grâce. Et merci de pouvoir ainsi nous confier en toi. Merci de pouvoir encore ainsi nous attendre à toi, Seigneur. Et Seigneur, c'est vrai que nous voyons l'exemple de Naaman, Seigneur, et nous voyons les encouragements qu'il y a aussi en lui, Seigneur. Et merci parce que tu es celui qui veut nous fortifier chacune et chacun pour que nous puissions être de ceux qui restent à l'écoute de ta volonté, Seigneur. De la façon dont tu t'adresses à nous, Seigneur, tu nous parles spécialement, que tu nous parles par des petites choses, peut-être par de petites personnes, mais que tu nous parles cependant, Seigneur, de cette manière-là. Merci parce que tu veux encore nous aider à incliner nos cœurs, Seigneur, à nous laisser être dans une position où nous restons disponibles devant toi. Béni sois-tu, Jésus, alléluia. Merci, Seigneur, tu veux faire de nous aussi des hommes, des femmes d'honneur, comme Naaman l'a été, Seigneur, de ceux qui sont reconnaissants, de ceux qui sont cohérents aussi, de ceux qui s'engagent pour toi et qui, avec ton secours, eh bien, veulent poursuivre dans cette voie de service pour ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Et merci, Seigneur, parce que tu veux faire de nous aussi encore des témoins, comme cette petite jeune fille l'a été, Seigneur. Elle a simplement parlé avec sincérité, avec conviction de ce qu'elle savait, de ce qu'elle connaissait, de ce qu'elle vivait. Et merci, Seigneur, parce que tu veux aussi ainsi soutenir et fortifier notre témoignage à chacun. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Et merci, Seigneur, parce que tu es celui qui veut aussi fortifier aussi ceux qui ont le désir de te servir, Seigneur, et que nous puissions être dans cette même position, cette même disposition que celle d'Élisée, Seigneur, cet engagement plein et entier, cette pleine consécration, ce plein désintéressement, Seigneur. Merci, notre Dieu, nous attendons à toi, nous te remercions là aussi pour ta grâce et ton secours. Garde-nous, Seigneur, des pièges de l'adversaire dans lesquels malheureusement Géasi est tombé, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu gardes, merci parce que tu délivres, merci parce que tu sauves encore puissamment. Sois glorifié, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia.